Libre Radio, le côté obscur de la radio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Nous sommes le vendredi 29 novembre 2019. Aujourd'hui est un jour marqué par la solidarité, l'amitié et les convergences des luttes pour dénoncer la surconsommation. Selon la Tribune de Genève, une quarantaine de collectifs et d'associations organisent ce vendredi une journée de mobilisation à Genève contre l'opération commerciale Black Friday. Un jour de solde monstre né aux États-Unis. Bonjour Camille. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. Alors vous participez au mouvement de contestation contre l'horreur que représentent les soldes massives. Aujourd'hui, les foules sont encouragées à se ruer dans les magasins pour acheter. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de vous engager aujourd'hui ?
Alors pour nous, cette journée, elle va être le symbole de cette union entre les différents collectifs et mouvements qui avons tous comme vision le changement du système actuel qui nous domine, qui réprime nos droits. Et cette journée-là en particulier parce que on a de la surconsommation, on a tous les effets sur l'environnement et la justice climatique
et
sociale.
Alors déjà, ce qui est important pour nous, c'est d'être unis et de montrer qu'à Genève, toutes sortes de collectifs, que ce soit les grèves des femmes, les grèves du climat, que ce soit les syndicats, que ce soit des organisations étudiantes, des ONG, toutes sortes d'organisations pour dire qu'on converge toutes vers une lutte commune. Donc aujourd'hui, on est vraiment là en tant que convergence des luttes contre le Black Friday. Le Black Friday, c'est qu'une journée, mais elle est extrêmement emblématique du système contre lequel on lutte. C'est un système qui opprime les personnes, qui opprime les travailleurs, qui est créatrice de surconsommation avec un impact terrible sur l'environnement et donc également sur les populations migrantes, qui est générateur de migration suite au climat, etc. Toutes ces formes d'oppression, tous ces résultats néfastes sur le climat, sur le social, sur les personnes, sur le droit des personnes et en particulier l'impact sur les femmes est quelque chose contre lequel nous nous mobilisons tous ensemble de manière créative et joyeuse.
Et quelles ont été les activités que vous avez programmées aujourd'hui?
Donc toutes sortes de choses vont être faites aujourd'hui. Il y a déjà eu des actions qui s'appelaient nappes blanches qui visaient à recouvrir certaines affiches dans la ville pour signifier notre désaccord contre cet accaparement de l'image et de la publicité. Il y aura des actions pour inviter les gens à évacuer les magasins. Il y a également des actions dites d'étiquetage qui permettent de donner des indications lorsque les gens achètent des biens, en particulier de l'industrie vestimentaire, de l'industrie textile, de comprendre quel est l'impact d'un jean sur le climat, quel est l'impact d'un jean sur la vie d'un travailleur ou d'une travailleuse, très souvent d'une travailleuse, parfois d'enfants. Il y aura également des actions de redistribution d'habits, donc de friperies gratuites ou prix libre pour montrer que si vraiment on a envie d'un nouveau pull, etc., c'est pas forcément dans les magasins et dans la surconsommation qu'on a besoin d'aller les chercher. Il y a bien sûr une grosse manifestation qui aura lieu ce soir à 19h, une manifestation nocturne où tout le monde va se rejoindre. Et puis ce moment de recueil aujourd'hui à Unimaille où on va pique-niquer tous ensemble, un espace informatif, des canapés qui sont là pour vraiment indiquer la convivialité de notre convergence.
Et à un moment donné, à partir de l'étiquetage, on va aussi partir sur une espèce de défilé de mannequins de la mode, donc des habits qui ont été faits à partir de messages qui soulignent en fait tout l'impact écologique et sociétal que ça peut avoir la consommation, en particulier pour cette action sur le fast fashion.
Et quels sont un peu les profils des personnes qui s'engagent avec vous ?
De tous les genres ?
Ouais, alors. Tous les genres, déjà en termes de genre, tous les âges, tous les métiers, tous les profils, on est vraiment extrêmement divers. Et ça, ça a été notre richesse dès la rédaction du communiqué, dans nos réunions, etc. Notre richesse, c'est justement notre diversité, parce qu'on se nourrit les uns les autres, autant dans la réflexion, dans le langage. Et c'est quelque chose qui est riche pour tout le monde.
Le fait qu'il y ait aussi des thématiques qui sont plus d'intérêt pour certains que d'autres permet aussi de sensibiliser ou se sensibiliser parmi aux thématiques des uns des autres et puis d'autant plus souligner cette convergence et souligner davantage à quel point il y a des bases communes à nos luttes.
Puis vous avez créé, je pense, des amitiés, des synergies. Est-ce que dans l'avenir, vous allez être amené à collaborer davantage?
C'est l'intention. Après cette journée, on a encore prévu de se retrouver pour débriefer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensuite pour continuer à aller de l'avant, que cette journée soit seulement le début de cette organisation horizontale et solidaire de tous les collectifs et groupements.
Parce que vous êtes combien en tout? Il y a une quarantaine d'organisations, c'est juste?
Il y a 38 40 organisations signataires, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur le communiqué parce qu'elles ont signé après. Et après, en termes d'individus, on est énormément. Bah, certains d'entre nous sont dans plusieurs collectifs. Il y a énormément d'étudiants qui se sont rejoints. On considère que toutes les personnes en lutte aujourd'hui, ici et ailleurs, font partie d'un même mouvement pour ce changement de système. Et comme le disait Camille, c'est vraiment le début de quelque chose. L'idée, c'est de cette convergence. Je crois qu'aussi, on se singularise par la qualité de relations humaines qu'on a envie de développer, avec toutes les difficultés que ça peut comporter, mais d'apprendre justement à communiquer, à se respecter entre nous, à utiliser certains signes non autoritaires pour signifier notre accord, notre désaccord, etc. Et puis d'apprendre à s'écouter, parce qu'on pense que ça fait partie aussi du changement de système, de créer vraiment des espaces horizontaux où tout le monde a la place.
Donc justice sociale, justice climatique, ça va ensemble?
Absolument. Et droits humains.
Au niveau collectif, est-ce que vous avez l'impression que vous voulez en fait réveiller les gens? Est-ce que vous avez été assez radical dans vos actions? Oui.
En termes de convergence ou chaque collectif
En termes de mobilisation, est-ce que vous pensez que vos actions étaient suffisamment coup de poing?
Oui. Donc il y a des mouvements qui se veulent plus pacifiques, d'autres qui se veulent plus coup de poing, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien, c'est la diversité des actions, que ça puisse parler à un maximum de la population.
Est-ce que vous êtes sévère par rapport aux autres membres de la communauté Genève, ceux qui ne sont pas forcément dans vos mouvances, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un système qui est coupable et pas forcément les individus? Est-ce qu'au niveau individuel, vous êtes cohérent avec vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une responsabilité? Vous devez montrer l'exemple pour montrer qu'il y a une autre mode de comportement possible? Et puis, est-ce que c'est une pression pour vous, le fait de devoir être un modèle pour les autres personnes?
Alors, une pression, moi, je dirais pas, parce que je pense que c'est un choix individuel à chaque moment. Et puis le choix individuel, ça veut aussi dire accepter nos incohérences et nos paradoxes. Personnellement, je suis à l'aise avec ça. Il y a des choses, j'essaye dans la plupart de mes choix, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient de consommation, d'alimentation, mon engagement politique, d'être évidemment cohérente. Et après, il y a des choses que je fais qui n'ont rien à voir avec ça. Par exemple, dans mes modes de déplacement qui parfois me sont imposés. Et je crois que c'est vraiment d'assumer qui on est. Je ne sais pas si l'idée, c'est d'être un modèle, parce que ça, je trouve ça en soi un petit peu autoritaire comme dynamique. En revanche, c'est de vivre la cohérence et puis de montrer que ça, c'est possible dans son quotidien et que c'est aussi nourrissant de pouvoir se regarder dans le miroir et de savoir qu'on est en adéquation avec ce qu'on prône. Maintenant, quand les gens qui sont moins sensibles, moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, après, c'est est-ce qu'elles ont la force ou l'envie d'agir et de changer leur modalité, leur mode de vie. Mais pour l'instant, je pense que les gens ont quand même conscience des inégalités qui existent. Elles ont conscience des bouleversements climatiques qui existent. Elles ont conscience de l'injustice. Par exemple, on est en Suisse, on voit le prix des assurances maladie, la difficulté à accéder à certains services basiques, etc. Toutes ces choses dont les gens ont conscience, même la question de la fast fashion. Après, est-ce que les gens arrivent se détacher de la pression sociale et d'agir dans ce sens là. Maintenant, quant à la question sur la responsabilité individuelle ou collective, nous, on réfléchit, je crois, en tout cas, c'est comme ça qu'on a voulu poser le Black Friday. C'est clair que notre objectif, c'est pas culpabiliser les consommateurs précaires qui ont peut-être besoin de cette journée pour avoir une machine à laver le linge ou un autre produit qui est nécessaire à leur foyer. En revanche, il y a un système qui est responsable. Et c'est vrai que nous, quand on veut réfléchir au système économique, social, de manière générale, et à nos relations, on a envie d'aller au-delà de la paille en plastique et des petits gestes individuels qui sont importants, qu'il faut faire aussi, mais maintenant on n'est pas un héros parce qu'on a une paille en métal dans son sac.
Ouais, moi je reviens aussi sur ce que Camille disait. Au sein de la convergence, on a bah, plein de collectifs différents, des individus qui viennent d'horizons très variés avec leurs opinions, leur vécu. Et du coup, chacun va interpréter différemment à quel point est-ce que les individus sont des consommateurs, des acteurs et de changement. Au sein de la convergence, on a vraiment souligné à plusieurs reprises le fait que justement, on ne voulait pas culpabiliser les personnes, particulièrement celles qui sont en situation de vulnérabilité ou de précarité, que derrière ce système, il y a une grosse machinerie quand même. Enfin, c'est un système très lourd qui est là depuis un bon moment et qui a beaucoup d'outils aussi pour nous forcer un peu à agir aussi en fonction de ce qu'il nous impose. Mais il y a ces différents niveaux. Il y a le niveau individuel et le niveau systémique qui sont mis en place. Après, justement, sur ce mouvement de convergence, on veut d'abord axer sur le systémique et puis se rendre compte que pour changer ce système, on a besoin que tout le monde, du coup les individus aussi, fassent partie des masses qui vont changer ce système. Sur la question de est-ce que c'est un poids, je crois que pour certaines personnes du mouvement, ça l'est. D'après les discussions qu'on a, en fait, effectivement, il y a des personnes qui sont là parce que justement, il y a une grande sensibilité à ce qui se passe en ce moment, à se dire, mais on est vraiment dans une situation de crise et d'urgence qui devrait être l'équivalent d'une guerre, en fait, au niveau mondial. Et qu'il y en a qui le vivent vraiment avec cette urgence dans leurs entrailles, que ça devient vraiment quelque chose de difficile. Et c'est aussi pour ça qu'ils s'engagent et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on soit dans cette convergence où on sait qu'on peut être solidaire et se soutenir et se montrer que finalement on n'est pas tout seul dans cette lutte et qu'on soit de plus en plus à le visibiliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent et qui le font peut-être à leur niveau chez eux, mais de le rendre plus visible aussi dans les espaces publics pour qu'on voit qu'il y a un mouvement qui est en marche.
Je rejoins les Camille là-dessus. Je pense qu'un point hyper important, c'est de ne pas culpabiliser l'individu, mais de le sensibiliser et de lui montrer, de lui expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la société, la manipulation médiatique, etc., puis que l'individu lui-même puisse se rendre compte, prendre conscience de la manipulation qu'il subit et qu'il puisse lui-même s'élever et aller au-delà et voilà, se remettre en question lui-même.
Un autre aspect de ça, et sur lequel on a envie tous de travailler consciemment, qui peut-être rejoint quelque part la culpabilité, mais pas seulement, c'est la question de la déconstruction de nos privilèges. On a quand même conscience qu'on est ici, à Genève, beaucoup de personnes au sein du mouvement ou de réunions sont des personnes cisgenres, des personnes à la peau blanche, des personnes en tout cas sans handicap apparent, etc. Tout ça sont des privilèges qui nous permettent, qui nous facilitent le fait de pouvoir se soustraire à certaines oppressions. On en a conscience, on a envie de les déconstruire et on a aussi envie de créer des espaces qui soient ouverts à tous et de réfléchir à ces mouvements de manière intersectionnelle et transversale. Donc c'est aller au-delà de la culpabilité, prendre conscience, changer et puis vraiment de déconstruire le système, les privilèges, tout ce qui nous opprime et tout ce qui nous, et tout ce qui nous facilite la vie aussi, en se rendant compte que quand certains ont la vie plus facile, c'est sûrement sur le dos d'autres.
Il y a des luttes qui se rejoignent, que ce soit le féminisme, les luttes pour les populations autochtones, les luttes pour les minorités, etc. Est-ce que c'est important pour vous d'agir sur tous les fronts ou bien vous avez envie de vous investir dans une direction en particulier ?
Alors moi, très personnellement, je pense que si on ne s'investit pas dans la lutte écologique, toutes les autres luttes n'auront plus lieu d'être. Après, je pense qu'elles sont complètement imbriquées les unes dans les autres. La lutte écologique va totalement avec la lutte sociale. Et quand on commence à s'investir justement dans ces luttes, en fait, on se rend compte qu'on pourrait être sur tous les fronts au final parce que tout est entremêlé.
Alors moi, je pense que c'est important d'être sur tous les fronts. Après, il y a quelque chose aussi qu'on apprend souvent sur notre peau, c'est les limites de l'individu et le fait que quand on arrive en tant que militant à une situation d'épuisement ou de charge mentale, de charge politique qui est trop importante, finalement on n'arrive plus à agir nulle part. Donc c'est important qu'on arrive à se séparer, à diviser un peu les tâches. Mais en revanche, je pense que c'est inutile même de réfléchir au féminisme sans réfléchir aux luttes climatiques, de réfléchir sans réfléchir aux luttes antiracistes, sans réfléchir à la transphobie, sans réfléchir aux oppressions homophobes, à toutes les formes de racisme, que ce soit l'islamophobie, l'antisémitisme, etc. Et bien sûr, la question des populations autochtones, la question des migrations, c'est-à-dire que le changement climatique va causer le déplacement de certains migrants qui deviennent d'abord des victimes en termes d'atteinte à la vie directement sur le parcours migratoire. Les femmes deviennent souvent des victimes de viols, des objets sexuels, le viol utilisé comme arme. Ça devient la force de travail précaire que les populistes vont utiliser pour générer une idéologie raciste et générer plus de conflits et puis justifier ces rapports de domination. Donc tout est imbriqué. Et si on ne réfléchit pas sur tous ces termes et qu'on réfléchit et qu'on ne s'éduque pas, on ne s'informe pas et on n'est pas solidaire avec toutes ces autres luttes, finalement, on ne fait rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi très clair. Et voilà, je le répète, par contre, avec la conscience qui, je crois, s'acquiert petit à petit des limites du corps, du temps, et puis de voir à quel point, des fois aussi, avec la fatigue, finalement, on finit parfois par agir à l'encontre de ce qu'on voudrait faire.
C'est là aussi, je pense, que ça souligne l'importance et la nécessité de la convergence, justement, parce qu'on réalise que ces luttes sont imbriquées les unes dans les autres et qu'on ne peut pas individuellement être partout, tout le temps, sur tous les fronts, et que c'est justement en se disant que chaque partie va faire un bout de chemin et qu'ensemble, on va réussir à le mettre dans une direction qui fasse sens pour la société.
Quelles sont les limites pour vous dans vos engagements ? Est-ce que vous êtes prêt à aller en prison pour ces causes-là ? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser de la violence ?
Alors, check pour la prison, moi c'est fait, j'ai pas trop de soucis à y retourner. Ma seule limite actuellement, c'est des responsabilités familiales. Je suis maman d'un enfant et peut-être et presque demi. et du coup, de réfléchir à ça, à pouvoir être présent aussi par rapport à d'autres engagements, c'est peut-être ma seule limite. Quant à la violence, je crois qu'il faudrait avoir un débat de fond sur ce qu'est de la violence. Est-ce que détruire un bien dans une boutique de grande consommation, est-ce que c'est de la violence ? Pour moi, ça ne l'est pas. Est-ce que de rendre difficile la journée de travail de banquier, pour moi, c'est pas de la violence non plus. Et est-ce que dans une situation d'oppression réelle et massive, comme ce que peuvent vivre, par exemple, prendre un cas très emblématique, tristement emblématique, les Palestiniens dans les territoires occupés, est-ce que de se défendre contre une armée qui a des chars et des armes massives, est-ce que c'est de la violence ? Je crois pas. Donc il faudrait qu'on ait un débat de fond sur ce qu'est de la violence. Est-ce que la violence gratuite et primaire, c'est clair qu'on lutte contre les violences du système. En revanche, je crois que face à l'injustice et face à l'oppression, tous les outils sont bons pour se libérer et libérer les autres. Et justement, à la hauteur de nos privilèges aussi.
Est-ce que c'est important de garder la sympathie de la population suisse en général, ou bien il faut attirer l'attention, et peu importe ce que pensent les autres, finalement ?
Je pense que la sympathie du peuple est hyper importante. C'est ça qui va permettre de nous faire des alliés au fur et à mesure du temps, qui va permettre de grossir la lutte et au final de nous retrouver en majorité totale dans le pays, dans l'Europe, dans le monde, on espère.
Mais est-ce que c'est pas une lutte qui au début n'est pas acceptée, qui le sera au bout d'un certain moment ?
Alors là aussi, on est dans une convergence, donc il y a énormément de sensibilités différentes. Donc déjà, la réponse qu'on a pu donner sur la violence, la réponse qu'on peut donner sur la sympathie, tout ça, il y a 1000 sensibilités différentes au sein de la convergence et on espère toutes les respecter. Maintenant, il y a la sympathie du peuple dont vous parlez, avec certaines actions, elle est sollicitée. Et puis en même temps, de changer le rapport de force avec en particulier les transnationales qui accaparent les processus démocratiques, etc., c'est important aussi. Donc je crois que travailler justement, et c'est ce qu'on essaie de faire au sein de cette convergence, avec différents outils, différentes formes de mobilisation, c'est absolument fondamental pour pouvoir travailler sous tous ces fronts, d'où l'importance d'être divers et créatif dans ce qu'on essaie de construire tous ensemble.
Pour revenir aussi sur ce que Camille disait plus tôt, sur jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, ça soulève également beaucoup de questions sur la répression, en fait, et justement, comme Camille disait, sur la... Qu'est-ce qu'on qualifie de violence ? Qu'est-ce qu'on qualifie comme légitime ? Qu'est-ce qui fait partie de la loi ou non ? Savoir faire la distinction entre les deux. Et puis se dire qu'en fait, cette répression, qui est sur des sujets qui nous concernent tous, va avoir un impact sur les individus qui vont s'investir. Du coup, c'est vraiment fait de manière à dissuader à s'investir. Et c'est là aussi qu'il y a ce risque de jouer entre la sympathie avec le peuple et puis de se dire aussi, ben, en même temps, c'est les individus eux-mêmes qui sont en train de se mettre en risque et à chacun de choisir quel niveau de risque on décide de prendre selon sa situation. Donc la sympathie est un élément, mais après il y a aussi les éléments personnels en fait que chacun a avec ces situations, que peut-être des personnes qui vont être étrangères et qui n'ont pas les papiers, des personnes qui cherchent du travail, des personnes qui cherchent un logement, enfin il y a ou des situations familiales qui ne leur permettent pas de s'engager à tous les niveaux. Donc l'engagement dépend non seulement de la visibilité, le type d'image qu'on a envie d'avoir, mais aussi de la situation personnelle de chacun et de, comme tu le disais aussi, d'essayer de respecter ces différents niveaux d'engagement en ayant conscience qu'on a besoin de tous ces niveaux d'engagement et différences d'action.
Et là, on rejoint quand même, demain, ce sera les 20 ans de l'anniversaire de la mobilisation de Seattle. Et ce qu'on a créé là, à ce moment-là, c'était vraiment cette histoire de groupe d'affinité, et c'est-à-dire de pouvoir dire que chacun, avec sa sensibilité, ses capacités, son espace de vie, son statut administratif, etc., va pouvoir s'engager, ou non, sa capacité, ses habiletés au niveau du corps, etc., va pouvoir s'engager à la hauteur qu'il ou elle retient adéquat. Et ça, c'est vraiment, on a envie de développer le respect de ces modalités, le respect de ces différences à tout moment et dans tous les espaces. Et bah voilà, ça, c'est apprendre à se connaître, s'écouter, et puis de faire ça avec une ouverture d'esprit, de cœur, et puis en ayant quand même les objectifs en tête. Et puis là, quand on parle de répression et de danger, on est en Suisse, alors c'est sûr que là, on voit certains cas au niveau du climat où on commence à avoir un peu plus de répression. On a vu des antispécistes qui ont été incarcérés jusqu'à une année. Et puis si on met ça en parallèle de ce que vivent actuellement les militants dans les rues au Chili, en particulier les femmes. Il y a quand même de plus en plus de femmes assassinées par la police, violées par la police. Je me souviens de mobilisations il y a quelques années aux États-Unis où on avait eu 12 actes de violence sexuelle sur des personnes femmes ou transgenres en détention. Ça, c'est encore quelque chose qui, pour l'instant, on ne voit pas ici, bien qu'il y a quand même eu des assassinats de personnes de couleur, en particulier à Lausanne, etc., ces derniers temps. Donc la violence existe par la police en Suisse, ici en Suisse aussi. Mais voilà, mettons tout cela en relation, et puis je pense que d'engager nos corps dans la lutte, ça fait partie des aspects essentiels de ce qu'on doit faire aujourd'hui.
Est-ce que vous croyez dans la mondialisation des combats? Qu'est-ce qu'il faut faire pour provoquer cette mondialisation des combats?
Elle est en cours.
Elle est en cours, elle existe, ouais, absolument. Bah, on regarde les combats, les activités menées par des organisations comme la Via Campesina, le WFFP, qui sont donc des organisations paysannes, autochtones, des organisations de base, de pêcheurs, de pastoralistes, de nomades, de personnes en zone rurale, qui travaillent autant dans les territoires. Il y a 20 ans, c'était la déconstruction, essayer de comprendre, de déconstruire ce qu'on leur avait été dit, que les paysans du Sud souffraient en raison des politiques privilégiées des paysans du Nord. Les paysans du Nord croyaient que si eux arrivaient plus à vendre leurs produits, c'est parce que les paysans du Sud faisaient du dumping et pouvaient travailler à bas coût. Après, quand ils se sont réunis, qu'ils ont commencé à travailler ensemble, ils se sont rendus compte qu'il y avait un ennemi commun qui était le système, les entreprises multinationales, l'industrie agroalimentaire et l'industrie des agrocarburants, en particulier les industries extractives, etc., qui opprimaient tous les paysans et toutes les personnes vivant en zone rurale partout dans le monde. Donc il y a eu cette première déconstruction. Il y a eu la réflexion sur des projets politiques. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire est quelque chose qui est connu de tout le monde en Suisse. Ce n'était pas le cas avant. C'est quelque chose qui a été identifié et construit par des populations paysannes avec des difficultés en termes de langage, d'accès à des réunions, de financer des espaces collectifs extrêmement difficiles. Ces personnes sont arrivées ensuite à avancer vers quelque chose qui est par exemple un processus international en termes législatifs de la déclaration du droit des paysans et autres personnes vivant en zone rurale qui a été maintenant adoptée, qui est un outil législatif. Il y a des luttes pour le traité contraignant contre les multinationales qui est aussi portée par les communautés autochtones paysannes, avec un travail également théorique qui est fait par des académiciens partout dans le monde, qui est forcément porté par des associations ici à Genève, puisque c'est ici qu'est l'ONU, le Transnational Institute à Amsterdam, parce qu'ils ont ces privilèges-là. Donc la lutte, elle est internationale, la solidarité, elle est internationale, et au même titre que le sont les oppressions, c'est fondamental que ça le soit, et c'est comme ça qu'on avance. Et les vrais changements arrivent par la lutte des travailleurs, et puis de s'inspirer les uns les autres. Chaque victoire qui se passe, quand on entend parler d'un pays ou d'une ville qui décide de désinvestir dans les énergies fossiles, bah, c'est la preuve qu'on peut le faire ailleurs aussi. Donc à tous les niveaux, non seulement ça existe, mais c'est fondamental. Les grèves des femmes s'inspirent des grèves des femmes d'un pays à l'autre, et ça donne à chacune la force de s'investir un peu plus.
Et j'ajouterais aussi qu'au-delà des organisations et des structures qui sont vraiment plus officielles, qui sont en place au niveau international, il y a aussi tout ce mouvement populaire qui est en train d'être vraiment visible en ce moment. On peut passer par tous les continents, que ce soit Chili, Équateur, Bolivie, Hong Kong, Iran, enfin vraiment on peut passer un peu partout, également en Europe, où il y a ce mouvement qui d'éveil en fait, où la population se rend compte qu'il y a des changements à faire. C'est clair que chaque contexte a une étincelle de départ qui a été différente, et quoique il y a encore beaucoup de similitudes aussi dans beaucoup de ces combats-là, mais finalement il y a vraiment ce retour à le peuple se veut décisionnaire, veut changer le cours de ce qui est en train d'arriver, veut revendiquer ses droits, veut avoir le volant entre les mains en fait, de se redire ben, vers quelle direction est-ce qu'on va, et puis de réutiliser des outils de désobéissance civile pour aller à l'encontre de ces gouvernements ou de ces systèmes qui sont en place et qui ne leur permettent pas de l'appliquer en tant que tel tout en restant dans le droit.
Est-ce que le combat en Suisse se passe aussi par la politique partisane, ou est-ce que vous êtes plutôt désabusé par rapport à la politique suisse, que pas besoin forcément de collaborer par exemple avec l'IVAR?
De nouveau, c'est une convergence, donc il y en aura certains qui vont même faire partie de certains partis politiques, comme d'autres qui vont être plutôt dans un extrême opposé. Qui vont pas forcément y faire appel. Là, je pense qu'on est dans des mouvements qui, justement, essayent de jouer avec la pluralité d'acteurs et de niveaux d'action. On essaye d'engager tous les acteurs qui ont cette même vision de mouvement. On compose avec les acteurs qui veulent s'engager, je crois.
Il y a des partis qui sont signataires de la convergence. Et après, bah, là aussi, c'est respecter le travail de chacun. Je pense que le travail, il est utile sur tous les fronts. Personnellement, je m'amuse plus dans la rue et à bosser avec la grève du climat que bosser au sein de partis. Après, c'est important que les partis fassent leur travail aussi, et puis qu'on se nourrisse chacun aussi des dialectiques et des espaces des uns des autres. Par exemple, c'est clair qu'il y a des sujets comme l'égalité salariale, l'inclusion du consentement dans la définition du viol, la question de l'âge de l'AVS, etc., qui sont des sujets qui passent par une politique institutionnelle, et on ne peut pas en faire à moins. Et puis en même temps, en ce qui concerne la mobilisation, la relation avec les jeunes, la radicalisation de certains sujets, ça se passe, je pense, par la rue, par les universités, par les écoles, et tous ces aspects sont complémentaires.
Et qu'est-ce qui vous permet de garder espoir et de continuer à lutter et pas vous dire bon, c'est trop tard, on jette l'éponge?
Bah déjà, les changements qui existent déjà. Il y a quand même que ce soit le droit des femmes, le droit des enfin, il y a toute une série de choses qu'on n'aurait pas obtenues sans la mobilisation. Donc on sait que l'action directe et la mobilisation fonctionnent. Et puis je crois justement l'urgence dont parlait Camille tout à l'heure, le fait que il y a le changement climatique. Certains disent on a 10 ans pour en sortir. Non, le changement climatique, qu'on voit les situations au Bangladesh, en Asie, le tremblement de terre qu'on a eu, qui a eu la semaine dernière en France, etc., il est partout, il est déjà en train d'affecter les gens. Les migrants qui meurent en mer, les migrants détenus en Libye, les femmes assassinées, violées, on parlait du Chili ou dans les communautés autochtones en raison de l'industrie extractive, tout ça c'est le quotidien. Et je crois que tous ces sujets ne permettent pas le luxe de baisser les bras et de se dire c'est foutu, bon, tant pis, je m'éclate et je bois des mojitos dans ma piscine avec mon nouveau maillot de bain. C'est l'urgence est en sorte qu'on ne peut pas. Et il y a vraiment une mise en jeu de nos corps et de nos privilèges qui s'impose.
Après, un petit plus pour garder le cap, c'est moi personnellement, je suis abonné à une page qui recense des bonnes nouvelles. Et ça m'aide aussi beaucoup.
Voilà. Il y a, moi, par exemple, il y a un projet qui me donne beaucoup d'espoir, qui va être compliqué à mettre en place, mais le fait que des femmes veulent s'engager là-dedans me donne espoir sur le changement de paradigme qu'on est en train de vivre. C'est cette occupation de la frontière de Vintimille qui va bientôt être faite en 2020. Toute une série de convergences d'organisations de femmes, pas forcément radicales à la base, et qui s'organisent pour lutter contre la criminalisation des migrantes, contre l'impact des violences sur des migrations sur le corps des femmes, etc. Et ben, des sujets comme ça, et quand on voit des gens qui sont prêts à faire des choses aussi, qui prennent des risques, non seulement pour dénoncer mais pour réellement changer les paradigmes, tout ça, ça donne espoir. Et puis quand, en voyant les jeunes aujourd'hui, la grève du climat, ce sont des millions de personnes qui mettent en jeu leur corps, leurs privilèges, leur liberté, etc. Et ça, je veux dire, on ne peut que le respecter et avoir espoir par rapport à ça.
Qu'est-ce qui serait pour vous une victoire aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui serait une victoire ? Ouais. Qu'on parle de toutes les actions déjà dans les médias, que ça soit vu, que ça soit visible, que ça fasse des remous, que ça rebondisse. Et peut-être que l'année prochaine, il n'y aura plus de Black Friday. Ça serait magnifique.
Une victoire pour moi, ce serait de continuer à travailler ensemble. Une victoire, ce sera de voir si on est confronté à de la répression, de voir qu'effectivement les collectifs sont solidaires les uns avec les autres. Ça, c'est en très petit par rapport à Genève. Une victoire, ce sera de continuer à travailler ensemble après cette journée emblématique. On a parlé de certains projets, par exemple de la réalisation d'un free shop à Genève qui permette de consommer autrement et effectivement de renouveler sa garde-robe. C'est ça que les gens ont envie de faire, mais de le faire de manière réfléchie et éthique. Une victoire, ce sont des réflexions qu'on est en train de mettre en place aussi pour que une consommation différente soit accessible aux foyers les plus précaires. Une victoire, ce serait que la ville de Genève et le canton, ainsi que les autres cantons romands, se bougent pour la souveraineté alimentaire qui a été votée favorablement, bien que ce ne soit pas passé au niveau fédéral. Une victoire, c'est quand les femmes, suite à la mobilisation du 14 juin 2019, sont invitées de plus en plus à prendre la parole. Une victoire, ce sont quand des jeunes femmes aujourd'hui peuvent parler de plus en plus librement de leurs règles, de leur corps, des violences obstétriques. Tout ça, ce sont des victoires. Je crois qu'il faut emmagasiner chacune d'elles et de s'en servir comme un moteur et comme un carburant pour continuer à lutter.
Et qu'est-ce qui est, selon vous, une société juste ? Parce que ça, c'est un objectif, c'est d'arriver à une société qui est plus harmonieuse. Comment est-ce que vous imaginez cette société de demain ?
Pour moi, une société juste, c'est une société dans laquelle on a plus d'oppression. Donc c'est une société où tout le monde, et c'est pas juste sur le papier, quelle que soit l'identité de genre, l'identité, les expressions de genre, quelles que soient les orientations sexuelles, quels que soient les différents niveaux d'habilité au niveau du corps, que ce soit les origines ethniques, que ce soit le statut administratif des personnes, déjà que tout le monde ait le même droit de circuler, que tout le monde ait le même droit aux droits fondamentaux que sont l'éducation, la santé, le logement, l'alimentation, une alimentation adéquate. Une victoire, c'est une société justement où prime la souveraineté alimentaire et ses concepts, juste comme sujet politique ou comme non, mais dans la réalité, c'est-à-dire qu'on raccourcisse les circuits de consommation. Tout ça, ce sont des victoires. Et je crois que beaucoup, on les voit, chaque personne qui change, chaque personne qui aujourd'hui a engagé sa journée sous la pluie pour venir se mobiliser ensemble et qui vont manifester. Tout ça, ce sont des victoires. Chaque personne qui se mobilise, c'est une victoire. Et la vraie victoire, c'est bien sûr d'arriver à cette société égalitaire. On va inviter les fachos à aller chercher une petite île quelque part où ils peuvent vivre entre grands blonds et habiles et se tirer la bourre entre eux et puis que nous on puisse vivre tranquillement et s'aimer comme on veut et être en relation comme on aime avec en ayant chacun assez à manger, chacun d'espace de le temps, le privilège de pouvoir se former, l'accès à l'éducation, non seulement formelle et institutionnelle, mais l'éducation au quotidien, le privilège d'avoir le temps de lire un bouquin, ça devrait être accessible à tout le monde.
Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de vous dire « là, ça va pas, la société, elle est vraiment insauvable » Est-ce que ça vous dit de partir, d'aller habiter dans une ferme quelque part où vous pouvez créer en fait une société idéale ? Ou est-ce que vraiment vous croyez dans l'avenir et que la société idéale, on la fera ici, dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui ?
Pour moi, c'est une question que je me pose régulièrement, de savoir En fait, c'est comme deux polarités en moi qui s'exprimisent chacune. Une qui se dit, mais en fait, il faut vraiment que je recrée ma petite société comme je l'imagine en parallèle de la société. Et puis une autre qui est vraiment plus en train de s'engager à chaque fois avec plus de moyens, de ressources, de temps personnel pour être là et se dédier à ça, à changer la société. Je crois que c'est assez commun, en fait, de se poser cette question et d'avoir tout le temps cette dualité qui est en nous et qui joue sans cesse.
Ouais, moi je rejoins tout à fait Camille, je me suis posé mille fois la question, j'adorerais partir fin fond de la campagne et monter ma petite communauté. Après je trouve que c'est aussi lâcher bon de ce qui se passe en ville. Je pense que se battre, c'est aussi se battre pour que ça change aussi en ville, que ça change partout. Donc voilà, moi pour l'instant mon combat est en ville, même si peut-être que dans plusieurs années je finirai à la campagne dans une communauté, on verra.
Moi je pense qu'il ne faut déjà pas idéaliser, parce que dans une communauté à la campagne, finalement les dynamiques de pouvoir entre les personnes risquent de se reproduire aussi. Oui c'est sûr, moi il m'arrive de régulièrement même de pleurer, de vivre profondément une forme de désespoir par rapport à cette forme de justice. Le viol comme arme de guerre et comme arme de répression, je veux dire c'est un truc, ça ne rentre pas dans le cerveau, c'est pas possible, on se dit non, c'est une mauvaise info, c'est pas possible, ça passe pas. Et des cas comme ça, des communautés entières déplacées, des enfants, là, c'était quoi ? La situation là, qui est sortie récemment dans les journaux aux États-Unis, où ils ont créé une fausse université pour faire arriver des étudiants avec des visas étudiants, et que parce que l'université n'avait pas un vrai statut légal, qu'elle était créée par le département d'immigration, que quand l'université n'a plus existé, les visas étudiants étaient plus bons, et qu'ils ont pu rafler 250 jeunes étudiants qui étaient rentrés légalement dans le pays. Ben, je veux dire, mais on se dit, mais on est complètement tarés. Et c'est sûr que toutes ces situations, elles donnent une rage qui nous porte au bord du désespoir. Et puis après, il y a vraiment le bout en soi de dire, ok, n'empêche que là, on est là, il y a encore un truc à faire, il y a encore une construction à faire, et puis ne serait-ce que de lutter ensemble, et puis de se prendre dans les bras et de se dire, j'en peux plus, bah ça donne le petit coup pour repartir et pour remonter. Et je crois qu'on peut vraiment... pas baisser les bras, enfin je veux dire on voit les luttes des Amérindiens aujourd'hui, des Léonard Pelletier qui se tapent des 20 ans de prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, mais quel privilège et quelle arrogance de se dire aujourd'hui qu'on baisse les bras. Et moi la question je me la pose souvent en termes spirituels aussi, je veux dire, où c'est vrai que finalement dans ma journée je vais être plus calme, mieux parler à mon enfant, mieux parler à mes collègues, à mes camarades, être plus posée si j'ai eu le temps de méditer, de machin, de sortir tout le négatif et de pouvoir avancer. Après, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Voilà. Et ça, cette question, je me la pose. Et après, en tant que sorcière, je me dis que la colère fait aussi partie de ma spiritualité et de ce qui me pousse à agir politiquement aussi. Et que tout ça est intrinsèque. Mais ouais, je pense que le besoin, en tout cas, pas forcément d'aller au fin fond de l'Ardèche élever des moutons, mais en tout cas de se mettre en boule sous la couette, je crois que ça nous prend tous à un moment ou un autre. Ouais.
Donc un espoir lucide.
Ouais. Pas, oui, ou pas. Peut-être que non, peut-être que c'est complètement taré de penser que, vu la taille de la machine qui nous réprime et nous oppresse, quand je dis nous, hein, c'est tous et toutes et toutes, et peut-être que c'est pas lucide du tout, mais on y va.
Ouais, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi un des slogans qui se voyait beaucoup à la grève des femmes qui était « Transformons notre peur en rage, notre rage en force et notre force en lutte ». Donc ça représente un peu cet échelonnage de différentes émotions qu'on peut vivre et comment on peut essayer de les vivre, de les sentir et de les transformer.
Et toi, Camille ?
Ce qui me donne espoir. Moi, ce qui me donne espoir, c'est depuis que j'ai rejoint des mouvements, justement, c'est de voir... Voilà, dans mon groupe d'amis, je me sentais un peu seule avec ces considérations écologiques. Enfin, moi, je suis très portée lutte écologique. Après, je rejoins aussi les luttes sociales, mais lutte écologique en priorité. Et ça m'a fait un bien fou de rejoindre des mouvements juste pour voir que non, je suis pas seule et puis qu'il y a plein de gens en fait qui se bougent, qui font des trucs. Et voilà, ça me donne grandement espoir. Et puis on voit quand même que J'ai aussi une mère qui est née dans les années 50, qui faisait partie de ces hippies, voilà, qui faisait pas très peur, qu'on écoutait, qu'on trouvait sympathique, mais qui servait à rien, soi-disant. Et puis en fait, là, elle se rend compte que bah, ça n'a pas servi à rien, que ça, c'est des graines qui ont été plantées, que ça a évolué tout au long de ces années, et que maintenant, en fait, on est en train de commencer à en récolter les fruits. Et je me réjouis de voir ma fille ou mon fils un jour qui pourra récolter ses fruits.
Merci beaucoup. Encore une question très importante, c'est comment est-ce que les gens peuvent vous contacter pour s'engager? Vers qui peuvent-ils s'adresser pour s'engager?
Alors, on a une adresse email qu'on va vous communiquer, qui est toute nouvelle. Et puis sinon, bah, suivre sur les réseaux sociaux. Il y a une page qui a été créée, Convergence des luttes, sur Facebook. Je crois qu'on a aussi une page Instagram. Ça a été compliqué de les créer. Et puis sinon, chacun d'agir là où il est, chacun de faire des choix, chacun dans toutes les universités, dans toutes les écoles aujourd'hui, dans tous les cycles. Il y a des espaces pour réfléchir à ces sujets. S'informer, écouter les luttes autochtones, écouter les luttes paysannes. Tout ça, ce sont des sources et de connaissances et d'inspiration. Réfléchir au féminisme absolument intersectionnel, pas le féminisme mainstream dominant et blanc qui est quand même très limité. L'adresse email,
c'est convergence des luttes genève@reiseup.net. Vous pouvez trouver l'adresse sur le libellé. Merci beaucoup.
Merci
à toi.